Bonsoir. Je me rallie à mes préopinants, comme on dit au conseil municipal. L'exercice est difficile. Oui, on ne m'entend pas. Il faut que je parle plus près du micro, mais sans faire trop de paix. L'exercice est difficile et jusque-là, la soirée s'était bien déroulée. Maintenant, je vais prendre le risque d'attaquer le sujet d'une façon très différente, si vous le permettez, comme une bonne élève aussi, qui a davantage répondu à la question. Alors, il faut monter le son, alors, parce que moi, je ne peux pas hurler dans le micro, sinon ça va faire des... Voilà. Vous m'entendez mieux maintenant ? Voilà. Oui, donc j'ai répondu comme une bonne élève à la question de l'impasse, d'un point de vue plus personnel. Je vous remercie de m'avoir invité à cette réflexion commune. J'y suis à titre de citoyenne et intéressée, bien sûr, à échanger sur des questions qui me préoccupent aussi, de manière moins directe que les militants qui sont ici ce soir, mais néanmoins qui me préoccupent et qui me révoltent comme citoyenne suisse face à une situation qui me paraît particulièrement hypocrite. Cela dit, je ne vais pas tellement parler des sans-papiers, puisque je ne me sens pas tellement habilitée à le faire, mais comme citoyenne et comme professionnelle du théâtre, j'avais envie de faire partager, au fond, mon vocabulaire et ma vision, au fond, des situations d'impasse. Il me semble que la question posée aujourd'hui par le Centre Contact Suisse Immigrée est la question, au fond, que peuvent partager beaucoup de groupes militants. Comment poursuivre son combat dans des circonstances qui sont immobiles, paralysantes et décourageantes. Je pense que toute situation de résistance à ses ennemis, et les ennemis, en l'occurrence, dans tout combat, c'est la perte de désir du combat, c'est la dévaluation de ses propres convictions, la banalisation de ses convictions par le camp adverse. Alors le camp adverse, ça peut être des ennemis très objectifs, physiques, et puis ça peut aussi être un certain nombre de visions fantomatiques, au fond, de résistance peut-être présupposée, et qu'il s'agit de combattre. Les situations d'impasse sur le plan personnel, bien sûr, j'en ai vécu. Dans chaque biographie, je pense qu'il y a des moments d'impasse sur le plan affectif, notamment, et professionnel. En ce qui me concerne, ma pratique du théâtre, c'est sans doute dans cette pratique que j'ai puisé, au fond, le plus d'enseignements intéressant et stimulant autour de cette question. Personnellement, je dirais que ces situations d'impasse, je les ai toujours envisagées plutôt comme des épreuves que comme des fins en soi, que comme l'idée de la mort. Ça tient peut-être à un optimisme personnel, un optimisme indécrottable, personnel, génétique, je ne sais pas, mais aussi peut-être à une forme d'attitude philosophique qui m'amène à relativiser régulièrement la situation dans laquelle je me trouve, moi et mes projets. Je dirais que la pratique du théâtre m'a appris une chose importante, c'est d'éviter de m'identifier à mes problèmes et de m'identifier à mes échecs. Lorsque je me trouve dans une situation d'échec, je me dis que c'est ces circonstances qui me mettent en échec et que je ne suis pas moi-même déterminée par cette situation d'échec. Que je ne suis pas, au fond, je suis libre de ces échecs. Ce sont les circonstances qui font que cette situation d'échec a lieu et que ces circonstances, elles peuvent changer. Et en changeant, elles peuvent me faire voir de nouvelles perspectives. Je rejoins peut-être là l'idée que Pierre Farine a évoqué tout à l'heure, c'est l'idée de la du long terme et du rapport au temps. En effet, dans bien des situations, j'ai essayé de faire en sorte que le temps soit mon allié. Tout ce qui s'inscrit effectivement dans une durée existe. On peut avoir l'impression qu'une chose ne bouge pas, mais le fait qu'elle s'inscrive dans le temps, au fond, lui donne de toute manière un poids, une existence. Et que même dans des situations où justement on a l'impression que les choses ne bougent pas, le fait de persévérer, de continuer, de croire à ses convictions comme des repères, comme des choses pierres précieuses auxquelles on s'accroche, permettent de ne pas reculer, permettent de ne pas perdre du terrain. Comme actrice, puisque j'ai une formation d'actrice avant d'être metteur en scène, et comme metteur en scène, dans mon travail quotidien de théâtre, j'ai appris aussi à lâcher, lâcher prise. Lorsque, dans mon travail artistique, je me trouve dans une impasse, et que je n'arrive pas à dépasser un moment de travail, que j'ai l'impression que ce que je fais est inintéressant, n'a pas de sens, manque de relief, que mon imaginaire est bloqué, que j'ai l'impression que je ne sais plus de quoi je veux parler et que, au fond, plus grave encore, je n'ai plus le désir de ce que je fais, que mon travail tout à coup perd complètement de valeur à mes yeux, j'ai toujours la possibilité de lâcher prise. Ça, c'est une chose que, au fond, j'ai pu apprendre dans mes différents stages d'actrice et qui, peut-être, ont un petit aspect un peu futile et symbolique aujourd'hui, mais je pense que c'est une composante importante et qui m'accompagne, au fond, dans de nombreux autres combats. Le fait de lâcher prise, de prendre du recul, d'abandonner momentanément, finalement, son combat, d'accepter le doute, d'accepter le vide, de repartir à zéro, permet tout à coup de retrouver une forme de liberté par rapport à ce qu'on essaye de saisir. Et cette liberté, c'est celle de lâcher et petit à petit, alors c'est une sensation un peu vertigineuse, on s'arrête dans son travail, on remet tout en question, par exemple, dans le cas d'une mise en scène, remettre en question le décor, les costumes, les acteurs qu'on a engagés, le texte qu'on a choisi. Ça procure une sensation de vertige, claire, désagréable, mais en même temps, ça redonne une sensation de liberté, ça permet de rapporter de l'oxygène finalement dans son travail, une bouffée d'oxygène, donc des énergies nouvelles, des envies nouvelles. Et puis on s'aperçoit assez vite que ce qu'on a lâché, on peut le reprendre. C'est-à-dire que dans ce qu'on a lâché, qu'on avait jugé mauvais, il y a peut-être des choses qui sont tout à coup, avec le recul, importantes, essentielles, bonnes, utiles. Et simplement, on les reconsidère sous un nouveau angle. C'est une expérience très basique de l'enfance, hein, s'accrocher à son hochet comme à une chose essentielle parmi tout, et puis finalement, ce sentiment de puissance de pouvoir reprendre ce qu'on a lâché. Et je crois que dans tout combat, au fond, il s'agit de retrouver, à travers le temps, ce sentiment de puissance, de créativité, qui, encore une fois, se perd lorsque on est face à l'hostilité, on est face à l'indifférence peut-être, à un certain nombre de choses. Et puis, il y a une autre chose importante, il me semble, dans le fait de lâcher prise, c'est de lâcher aussi un certain nombre de préjugés que l'on peut avoir. Des préjugés sur soi-même, en se disant... Voilà, on n'est pas capable de, on ne sait pas bien faire, donc on se juge, on se dévalorise, et ça, évidemment, c'est une chose qui ne peut être que stérile. Et puis, les préjugés aussi que l'on a sur les obstacles qui nous empêchent de réaliser nos projets. Certains sont objectifs, hein, il y a des résistances objectives, et puis il y a aussi tout ce que nous chargeons subjectivement autour de ces résistances, autour de ces murs. Dans le cas qui occupe le centre de contact des immigrés, si je reprends en fait le petit papier d'introduction à cette soirée, j'ai envie de poser des questions en réaction à ce petit papier, on fait deux constats. D'une part, que l'opinion publique n'est pas mobilisée sur ces questions. D'autre part, que la majorité politique ne montre pas la volonté d'y remédier. La question est de savoir pourquoi. Et est-ce que vraiment on est certain que dans les arguments des uns et des autres, on ne trouvera pas une brèche où s'engouffrer ? Est-ce qu'il n'y a pas des failles dans les arguments de ceux qui nous empêchent de progresser sur cette question ? Est-ce que finalement nous ne projetons pas un certain nombre de préjugés qui nous empêchent justement là aussi de croire à nos convictions et de les faire avancer. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là.
Même le chien.
Mesdames, Messieurs, j'ai aussi fait mes devoirs dans un certain sens, donc je me suis permis de réfléchir autour de la question de l'impasse comme pratique. Et de ce fait, ça ne m'a pas vraiment trop stressé, mais peut-être je sous-estime la situation. Mais l'impasse, c'est la normalité de la recherche. On est appelé à travailler quand il y a impasse et pas quand il y a clarté, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus personne qui demande rien, parce que tout le monde sait. Alors on nous pose des problèmes et puis on doit s'organiser. Alors toute la recherche, on essaye surtout dans un institut de recherche comme le mien, comme le nôtre, on essaye à l'organiser de manière à éviter possiblement que l'impasse ait lieu. Donc on essaye de travailler par des groupes de recherche. Donc c'est jamais un chercheur seul qui peut résoudre les problèmes qu'on lui pose. C'est toujours des groupes qui travaillent ensemble. On cherche aussi de mettre ensemble des gens de différentes disciplines, différentes perspectives, si vous voulez, ouvre les yeux pour des choses que seul on ne voit pas, ou dans sa propre discipline on ne voit pas. On cherche aussi d'inclure systématiquement la réflexivité, on appelle ça, dans les recherches. Donc on se fait accompagner, on lit des journaux, les articles plus récents, donc on essaie toujours en effet de se confronter avec ce que les autres pensent, disent, plus ou moins institutionnellement. Et enfin, on essaye de formuler, de reformuler souvent les questions qui nous sont posées de manière qu'ils soient traitables comme recherche. Donc on essaye d'être, comment pourrait-on dire, réaliste, de dire ok, qu'une question, pour répondre à ces questions, a besoin du temps. Ça ne se peut pas faire dans 2 jours de recherche. On a besoin de 2 ans de recherche pour répondre à ces questions. Donc on cherche de formuler ce qu'on appelle des objectifs SMART. Donc clair, mesurable, défini dans le temps, réalistique dans la réalisation. Et même si toutes ces précautions sont normales dans notre métier, eh bien ça nous arrive d'avoir quand même des situations où les recherches, on se dit, ok, c'est le mur maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors le grand avantage comparé au reste du monde, que la recherche et les chercheurs ont, il peut prendre du temps, il peut dire stop, on bloque tout. Et on se met dans une situation de distance, dirait Norbert Elias, donc prise de distance dans la recherche. Habermas dirait un discours virtuel avec soi-même. C'est le moment où on peut dire, ok, on réfléchit, jusqu'à ce qu'on a une idée de comment continuer. C'est une espèce de moratoire dans la recherche. On évite des décisions irréversibles. Voilà. Et puis on cherche à trouver des solutions. Comme on le fait, on collectivise le problème. Le chercheur collectivise ses problèmes. Il participe à des groupes de discussion sur Internet des chercheurs, par exemple, chercheuses. Il fait des appels dans le monde entier d'aide. Est-ce que quelqu'un a eu déjà ce problème et comment il l'a résolu? Un problème méthodologique, par exemple. Et enfin, si tout ça ne sert à rien, on redimensionne nos ambitions. On dit peut-être on voulait faire trop, on a besoin de beaucoup trop de temps pour arriver à trouver une solution. Donc c'est cette normalité d'impasse qui est mon quotidien. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une anormalité d'impasse en réfléchissant sur nos sociétés? Donc je fais un petit saut. Et aussi là, peut-être on n'est pas ni sœur ni frère, mais j'ai le même problème génétique, que je suis plutôt optimiste, plutôt constructif. Dans des situations, je note que nos sociétés se sont trouvées dans des crises dramatiques, profondes. C'est la normalité d'arriver dans des crises. Et les crises arrivent toujours quand un modèle ne marche plus, quand un modèle commence à tourner en rond. Et je reprends là le terme de Didis et Fiona, mais cette fois-ci dans une autre logique. Quand les politiques commencent à tourner en rond, c'est 1929, la plus grande crise économique du capitalisme, eh bien, elle crée, elle libère, et ça c'est peut-être vraiment la leçon fondamentale de notre histoire d'impasse, de société, elle libère des énergies créatrices énormes. Après, on trouve peut-être la bonne solution, c'est pas dit, hein. Souvent, en 1979-80, on a décidé que la solution, c'est le néoconservatisme, la globalisation économique, le libéralisme. Ça a dû être ajusté après qu'on avait trouvé cette solution. Mais ça crée, si vous voulez, un espace de liberté de pensée. Et là, je reprends ce que vous avez dit. C'est exactement cette liberté qui peut aussi être une libération de beaucoup de contraintes de pensée que l'impasse nous donne. Donc l'impasse dans les sociétés, c'est le moment, je dirais, le plus important d'innovation. J'ai fait beaucoup de recherches comparatives et c'est chaque fois le même problème que je vois. Après qu'on a trouvé un nouveau modèle d'action, après quelques années, il n'est plus trop intéressant parce que tout le monde le copie. Donc l'impasse crée la création s'affirme ou s'affirme pas. Dans la multiplicité des modèles proposés, c'est un modèle qui s'impose très vite jusqu'à sa propre crise. Donc c'est naturel aussi que des modèles arrivent à la fin, arrivent à ses propres crises. Si je réfléchis en termes de sans-papiers, je pense justement, c'est la soirée qui nous le demande, qu'on doit peut-être faire un saut, un triple saut dans la tête et commencer à donner cet espace de liberté à notre réflexion. Peut-être on doit aussi mettre en cause certains idées reçues de la gauche, de la droite, qui sont des solutions à des problèmes actuels, des solutions qu'on sait qu'ils ne marchent pas. Peut-être pour vous donner un peu de contraste, Madame Bunion, peut-être on doit mettre même en cause ce qui était le modèle d'aide au développement, comme on l'a connu jusqu'à nos jours. Je pense que c'est pas si grave si ces États diminuent une aide au développement, si on voit le désastre qu'elle a créé, souvent, pas toujours, hein, il y a quand même des bons éléments, mais ils ont par exemple donné de l'argent pour former des gens dans des autres pays, qu'on se retrouve le jour après la fin de ces études, financées par la Suisse, au Nigeria par exemple, on se les retrouve en Suisse, comme des bons techniciens, bien payés, à travers cette migration internationale, complètement ouverte pour les personnes qui ont une formation. Ou encore, 1000 exemples, on les connaît tous, de l'aide au développement. Donc, politique d'immigration, pourquoi ces frontières? Les gens viennent en Suisse parce qu'il y a du travail. S'il n'y avait pas de travail, okay, je pense qu'ils resteraient là où ils sont. On a vu ça en 1975-77. Il n'y avait pas d'assurance chômage en Suisse d'ailleurs. Les Italiens, ils étaient au chômage. Ils avaient le choix, je reste en Suisse sans travail ou je retourne dans mon pays sans travail. Tout le monde a décidé, presque tout le monde a décidé, de retourner en Italie. C'est plus sympathique d'être chômeur quand il y a du soleil que quand il y a de la pluie. Donc les gens vont là où il y a du travail. Pourquoi alors cette question des frontières est si fondamentalement à prendre comme donnée? Est-ce qu'on peut s'imaginer un modèle où on dit, on déclare, par exemple, ça sont les personnes qu'on a besoin? Peut-être une année on a besoin d'informaticiens, l'autre année on a besoin de gens qui nous aident à faire du bon vin. Ça peut changer, ça peut être aussi dit très transparemment. J'ai donc l'impression que cette impasse dans laquelle on se trouve, il est en train de libérer nos têtes. Il est en train de les libérer au niveau des grandes politiques migratoires. J'ai jamais vu une multitude d'approches, de solutions qui sont actuellement discutées dans le domaine des migrations. Aujourd'hui, comme je n'ai jamais vu un nombre si important. Et de même, au niveau micro, au niveau de la réalité concrète, quotidienne, du travail clandestin et du travail autour du travail clandestin, je reçois une fois, deux fois par semaine des informations sur ce qui se passe dans les cantons et dans les grandes villes. Et je vous garantis, ce sont tous des solutions qu'on est en train de trouver, micro-solutions pour des micro-problèmes. J'ai l'impression qu'il bouge, beaucoup de choses bougent. Qu'il y a surtout, par exemple, dans ce canton de Genève, une multitude de micro-réponses à la question des sans-papiers, de leurs problèmes quotidiens, de leur vie ici en Suisse. Donc, l'impasse, peut-être, on a besoin de le formuler, de le réaliser, pour pouvoir commencer à penser différemment. Mais je pense, très concrètement, qu'on a déjà dépassé cette situation d'impasse et que nous sommes déjà en train de chercher de nouvelles solutions. J'espère que ce soir, on donne un motif pour changer la tête, mais pas pour changer les pratiques, parce qu'il commence à aller dans une direction très intéressante. Merci.
Un immense merci à nos cinq élèves qui, visiblement, ont eu beaucoup de mal, enfin, ou en tout cas, ont sué pour faire leur devoir. Mais en tout cas, on est très contents de les avoir entendus. Et je vous propose maintenant de poursuivre la réflexion en plus petits groupes avec chacun d'eux. Donc, j'invite peut-être les animateurs qui vont accompagner chaque groupe à rejoindre leurs intervenants respectifs. Nous allons donc faire cinq groupes. Un groupe va rester ici. Quatre autres groupes iront rejoindre des salles un peu plus petites en sous-sol. Mais voilà, alors un maximum de 11 personnes par groupe, me dit-on. Les calculs ont été faits pour moi dans la salle. Alors, le groupe qui va continuer la réflexion avec Fabienne Bugnon va rester dans cette salle. Je propose aux autres groupes de sortir et de se rassembler pour descendre dans les quatre autres salles du sous-sol.